La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Elle a gardé le silence pendant 44 ans. Mais aujourd'hui, elle parle, elle raconte, elle accuse. Elle s'appelle Valentine Monnier. Elle est photographe, elle fut mannequin dans sa jeunesse, modèle à New York, comédienne également. Quelques séries et quelques films, Le bar du téléphone, Trois hommes et acouphins, ou L'homme aux yeux d'argent, elle y jouait de petits rôles. J'avoue, je ne la connaissais pas jusqu'à ce que j'ouvre Le Parisien ce matin, Le Parisien qu'elle a contacté mi-septembre. Elle souhaitait que le journal publie un texte qu'elle avait écrit. Avant de le publier, le journal a mené l'enquête, tenté de vérifier les faits et obtenu les confirmations de plusieurs témoins, lesquels ont même signé une attestation, se disant prêts à témoigner si l'accusation prenait une tournure judiciaire. À 63 ans, parce que se taire lui est devenu insupportable, Valentine Monnier raconte ce matin qu'elle a été violée. Et l'homme qu'elle accuse est cinéaste, il s'appelle Roman Polanski.
Et pour Le Parisien, il s'agit de la nouvelle affaire Polanski.
La nouvelle, car il y en eut d'autres. Il a déjà été mis en cause à 5 reprises. 5 femmes l'ont déjà accusé d'agression sexuelle. Cette fois, la victime présumée est française. Fille d'industriel alsacien, Valentine Monnier avait décroché son bac quelques mois plus tôt, hiver 1975. Une camarade lui propose d'aller skier en Suisse. Avec des amis, elle serait logée chez Roman Polanski. Passionnée de ski, Valentine Monnier accepte. Mais lors de ce séjour, l'hôte se jette sur elle. Voilà ce qu'elle écrit. « J'ai été violée par Roman Polanski. Je n'avais aucun lien avec lui. Le connaissais à peine. Ce fut d'une extrême violence. Après une descente à ski dans son chalet à Stadt, il me frappa, me roua de coups jusqu'à ma reddition, puis me viola en me faisant subir toutes les vicissitudes. Je venais d'avoir 18 ans. Et ma première relation seulement quelques mois auparavant. Lui, il en avait 42. Valentine Monnier se souvient de sa peur de mourir. Je me suis dit, c'est Roman Polanski, il ne peut pas prendre le risque que ça se sache, alors il devra me tuer. Elle se souvient aussi, juste après l'agression, des excuses du réalisateur, en pleurs, à qui terrifiée, elle promet de ne rien dire. Puis elle fuit la maison, se réfugie chez un voisin, un ami, Polanski. Par la suite, elle confie cette histoire à ses proches. Et encouragée par le scandale de l'affaire Weinstein, elle a également raconté ces 2 dernières années dans des lettres envoyées à la police de Los Angeles, de même qu'à Brigitte Macron, à Franck Riester, le ministre de la Culture, à Marlène Schiappa. Mais c'est donc la toute première fois qu'elle raconte dans un journal.
Et pourquoi raconter aujourd'hui, 44 ans après ?
Eh bien, à cause du film de Polanski, son J'accuse, qui sortira mercredi prochain. Film dans lequel il met en scène l'une des erreurs judiciaires les plus célèbres de l'histoire française. Et dans une interview, il a comparé l'acharnement dont a été victime Dreyfus à celui que lui-même aurait subi, lui qui est poursuivi par la justice américaine depuis 1977 pour avoir violé une mineure de 13 ans. Est-ce tenable, sous couvert de l'histoire, d'entendre dire « j'accuse » par celui qui vous a marqué au fer alors qu'il vous est interdit à vous, victime, de l'accuser ? Interroge Valentine Monnier. Voilà donc pourquoi elle sort de son silence. Voilà pourquoi il y était devenu insupportable de se taire. Et donc plusieurs témoins qu'a pu contacter le journal accréditent son récit. Récit que toutefois réfute Roman Polanski par la voix de son avocat. Il conteste fermement toute accusation de viol. Dans les autres journaux, c'est un anniversaire, ce matin, qui fait la une.
Oui, puisque ça fait aujourd'hui 30 ans que le mur de Berlin est tombé.
Des hommages, des dossiers dans la presse berlinoise, évidemment, le Berliner Zeitung. Le mur est tombé il y a 30 ans, ce jour-là, quelque chose de nouveau a commencé. Dans le Berliner Morgenpost, la chute du mur il y a 30 ans, Berlin nageait dans le bonheur. Et dans le Berliner Courir, un hommage à tous ceux qui ont permis que tombe enfin le rideau de fer. Merci aux courageux de 1989. Merci pour votre pacifisme. Merci pour la chance que vous nous avez offerte, le pacifisme. Oui, car il n'y a eu aucun mort durant cette révolution-là. Une victoire de la liberté, titre à une Le Figaro. Photo de jeunes gens tout sourire. Certains assis sur l'édifice et un autre debout, faisant justement avec ses bras ses doigts levés de la victoire. Un événement qui dixite le quotidien. Fit souffler un vent de liberté en Europe et sonna la fin des régimes communistes. Partout, on trouve des récits détaillés de cette journée du 9 novembre 1989. Une photographe des Pyrénées-Atlantiques raconte ses souvenirs dans le Sud-Ouest. Un ancien militaire de l'Aube raconte les siens dans l'Est éclair. Sergent, il était en poste à Berlin ce jour-là, ce jour où tout a basculé, comme on le lit à la une du Dauphiné. Récit d'espérance, récit de joie, ça et là dans la presse, mais on trouve également la déception, La déception.
La déception, car ce nouvel état du monde n'est pas celui auquel on pouvait s'attendre.
C'est précisément ce qu'on peut lire dans Libération, Eric, 30 ans après Berlin. Le monde sans mur, alors qu'on pensait entrer dans une ère de liberté. Les barrières se sont multipliées sur la planète, notamment en Europe, continent devenu forteresse. La différence, c'est que si le mur de Berlin était destiné à empêcher les Berlinois de l'Est de sortir, les murs construits depuis sont surtout destinés à empêcher les gens de rentrer. Puis dans M, le magazine du Monde, lisez les récits de l'arrivée des Allemands de l'Est à l'Ouest. À tous, le gouvernement ouest-allemand a offert 100 Deutschmark. Et cette somme les a beaucoup marqués. Ils racontent ce qu'ils en ont fait.
Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait?
Certains se sont achetés des produits dont ils ne pouvaient pas bénéficier à l'Est. Un Walkman, par exemple. Une femme raconte qu'elle s'est payée, elle, un billet pour un concert de Tina Turner. Elle rêvait de la voir et de l'écouter en vrai. Pour d'autres, c'était des vêtements, tout simplement des paquets de couches Pampers. Oui, voilà à quoi parfois peut se résumer le sentiment de liberté. Puis pour finir, je vous conseille aussi une interview. C'est à lire dans L'Équipe, l'interview d'un jeune footballeur, Victor Osimhen, l'avant-centre nigérian de Lille, qui s'est extrait de la misère de Lagos pour s'élever au niveau de la Ligue des Champions. Il rêve aujourd'hui de la Ligue A. Il raconte la misère de son enfance, la mort de sa mère à 6 ans. L'état de désespoir dans lequel il vivait, finalement le football, il ne s'y attendait pas, mais le football l'a sauvé. Et aujourd'hui, dit-il, ma vie est presque parfaite. Essayons tous d'avoir une vie presque parfaite.
Merci beaucoup Frédéric Pommier pour cette revue de presse et à demain.